Alors Pierre, tu nous parles d'abord de Spotify. Il y en a beaucoup de services de diffusion de musique en continu maintenant. Oui. Et Spotify en est un.
Oui, qui a une grande masse critique, qui a fait place à la critique aussi, et qui a réussi quand même à atteindre un nombre d'abonnés impressionnant. Mais évidemment, il y a Apple Music, il y a même Amazon Prime. Amazon qui t'envoie quand même ces temps-ci. Si tu n'utilises pas leur service de vidéo ou autre et que t'es abonné, il t'envoie une lettre papier pour te dire tellement il veut aller chercher des gens. Il y a Stingray qui t'offre avec ton câble certains services. T'as aussi YouTube qui est gratuit dans le fond avec des vidéos, mais en somme, tu sais, pour un prix de base, t'as accès à une infinité. Et là, on parle de résultats. 3 mois, 1,5 milliard d'euros de revenus, 442 millions de bénéfices. Pour l'année, on est un peu à perte à 78 millions d'euros de perte, mais on dit dans le fond que l'an prochain, on sera aussi à perte, mais que c'était quand même le premier trimestre où on avait une marge significative et qui était liée à des liens financiers, à des retours en des revenus de finances, mais en somme, Spotify vise la rentabilité. Et là, on se dit, écoute, la musique, c'est peut-être plus assez. On veut aller dans le podcast, c'est-à-dire on a acheté Gimlet Media et on se dit on va aller dans le podcast, on va aller dans l'information que les gens veulent aller chercher. Tu veux avoir du contenu exclusif, tu veux que les gens viennent sur ta plateforme parce que tu offres quelque chose. C'est un peu le modèle Netflix. Tu offres du matériel qui existe, mais tu offres aussi ton propre matériel. Et quand on regarde les abonnés, ben 30% sont en Amérique, 40% en Europe, 20% en Amérique latine, dans les payants, là, et 10% dans le reste du monde. Et si on va voir la tranche de tout ça, on se rend compte que finalement, oui, il y a des millions d'abonnés mensuels qui viennent souvent, mais il y a une bonne partie de ces abonnés-là qui ne sont pas payants. Ce sont ce qu'on appelle des « ad-supported », ça veut dire que c'est des gens qui prennent le service gratuit, mais qui visent à recevoir certaines publicités.
Les prix varient également dans tous ces services. Moi, j'en ai saisi plusieurs, que tu sois abonné à celui d'Apple ou encore à celui de Google même, ou encore le nouveau, là, YouTube. Ça varie énormément.
Et aussi tes genres. Si tu préfères un certain type, comme par exemple Apple Music, t'offre des fois plus de choix que Spotify. Donc, ça dépend vraiment.
J'ai tous essayé, je t'avoue. Là.
Oui, t'as-tu fait ton verdict de celui que t'aimes le plus?
J'haïssais pas le Google Play. Je le trouve pas cher à 9,95 par mois.
Ah, encore voilà, là, ton portefeuille a parlé.
Oui, mais Pierre-Yves, t'es mal placé pour me sermonner. Non, mais je veux dire ceci. Est-ce que tu vas t'en servir pour 9,95? Ça, je veux dire, c'est que tu as tellement d'occasions de retrouver sur différentes plateformes, dont YouTube, beaucoup de musique gratuite.
En fait, c'est que contrairement, ce qu'on compare souvent, c'est avec la musique achetée. Quand tu achetais avant 10-12 CD par année, tu te disais, ben avec le même paiement, j'ai accès à toute la musique. Pas un peu, presque tout. Donc, tu dis, comme au moins Economicus sur une vie, l'abonnement est plus logique que l'achat tout de même. Et c'est pour ça que les services sont si populaires.
Electronic Arts, le géant de l'électronique, évidemment des jeux vidéo, a vu son titre en forte baisse en bourse. Une baisse quand même importante.
Oui, 13,5%. Écoute, depuis un an, on a perdu 31% dans le titre. Depuis début d'année, on a quand même une remontée nette d'1,65. Mais ce qui fonctionne pas, c'est quand les investisseurs voient dans le milieu du jeu ou du logiciel, une annonce qui n'est pas respectée. Par exemple, un jeu qui n'atteint pas son moment de divulgation. Ou bien si on ne fait pas les profits avec un jeu, il y a beaucoup de volatilité de revenus. Pourquoi? Ben parce que c'est une question de projet. C'est comme une compagnie de films. Tu peux avoir un très gros succès et après ça, avoir de moins gros succès. Mais ce qui est intéressant, c'est le changement de cette industrie-là. Au niveau des 12 derniers mois qui ont terminé vont terminer le 31 mars 2019, là, selon la logique, là, on pense quand même qu'il y a plus de 2 $ sur 3 qui vont être gagnés dans le digital. C'est-à-dire que c'est fini, les packaging de produits, de logiciels. On y va vraiment dans le digital, dans le téléphone. Et c'est ça qui est intéressant de voir à quel point cette industrie-là, maintenant, les jeux que tu peux télécharger sur ton téléphone, c'est de la valeur. Donc, tu as, par exemple, eux, ils ont Scrabble, et avec EA. Tu sais, Electronic Arts, on pense souvent à EA Sports, mais tu as aussi Tetris, Need for Speed, FIFA, Sims 4, de Sims 4. Donc, tu vois un peu, tu as une énormité de jeux et de produits qui peuvent être payants, mais c'est à suivre les résultats. C'est toujours variable en fonction de la réussite des nouveaux projets.
Et l'histoire d'horreur de la crypto-monnaie et surtout de la firme Quadriga CX, on en a parlé hier, la mort de jeune homme de 30 ans qui a emporté dans la mort, évidemment, l'essor de beaucoup de gens qui lui avaient fait confiance et qui avaient investi. Et dans le Journal de Montréal, on raconte aujourd'hui, Pierre-Yves, l'histoire d'un homme qui gagnait pas trop, beaucoup par année, mais qui a perdu beaucoup d'argent.
Oui, il dit « J'ai 20 000 d'économie à une garderie. » Et il est aux études et tout ça. Il dit jamais un revenu de 30-40 000 avec la garderie. Mais il disait, avec les cryptos, au début, je faisais 2 800 de revenus par mois. C'est quelqu'un qui concentrait pas son risque de façon importante. T'as 4 enfants, donc rappelons certains risques. Tu sais, la crypto-monnaie, t'as un risque de volatilité. C'est-à-dire que l'intérêt du public, l'offre et la demande déterminent le prix. Donc, ça va bouger beaucoup. T'as aussi un risque de liquidité, comme on a vu dans le cas de Quadriga CX. C'est que la spéculation fait en sorte qu'à un moment donné, tu peux pas aller chercher tes liquidités de façon rapide parce que les échanges ou les différentes plateformes ne donnent pas une garantie comme une transaction bancaire conventionnelle. Il y a aussi un risque technologique, c'est-à-dire que les plateformes d'échange n'ont pas la garantie d'une protection contre le vol, il n'y a pas d'assurance dépôt. Il y a aussi un risque juridique parce que c'est pas réglementé. Puis, tu as un risque aussi de participer à des activités criminelles, terroristes ou frauduleuses, même du blanchiment d'argent quand tu utilises ça. Alors, tout ça fait en sorte que la stratégie gagnante, si vous êtes dans la crypto-monnaie, c'est la diversification. Allez pas mettre toutes vos billes dans un titre. Vous feriez même pas ça avec des titres cotés en bourse très risqués. Mais avec la crypto-monnaie, il y a eu comme une embolie intellectuelle. On s'est dit, on va tout mettre là-dedans. On y va l'all-in. On fait de l'argent. Et là, ces mêmes personnes-là nous disent, oui, mais l'AMF devrait se mettre le pied là-dedans. Ben non, l'AMF pouvait pas. C'était une compagnie dans la crypto-monnaie. Puis en Colombie-Britannique, c'était pas sous sa juridiction. Donc, on n'est pas protégé. C'est du risque. Vous pouvez en prendre. Mais si vous avez 4 enfants, 3 enfants, 2 enfants, et que vous avez de l'avenir et que vos épargnes sont pas magistrales, n'allez pas mettre 15-20 000 là-dedans. T'sais. C'est une question de pure gestion de risque financier.
Merci Pierre-Yves, à demain. Salut.